l'âme et du corps. La question de l'union de l'âme et du corps est une question récente et très ancrée dans l'histoire de la philosophie, car elle ne peut se poser qu'en relation avec l'exigence métaphysique de distinguer ces deux instances l'une de l'autre. Pour savoir de quelle manière l'âme et le corps peuvent être unis et éventuellement agir l'un sur l'autre en un ensemble qui du coup revêtira un statut singulier, encore convient-il de connaître ce qui, en l'homme ou en tout autre être dont on pourrait soutenir qu'il est composé d'une âme et d'un corps, un animal, un ange, un démon, relève de l'un et de l'autre. La réflexion sur l'union de l'âme et du corps s'avère donc étroitement solidaire de l'édification d'une anthropologie. On situe ainsi la position du problème dans l'œuvre de Descartes, dont la philosophie tente exemplairement de concilier les deux extrémités de la question, à la fois la distinction radicale des substances pensantes et corporelles et leur union en l'homme, étant entendu que tenter de penser en même temps ces deux choses se contrarie, selon les termes de Descartes lui-même dans la lettre à Élisabeth du 21 mai 1643. La postérité prend acte de ce qu'elle considère comme inachevé, voire comme aporétique dans l'œuvre de Descartes, et s'attache à résoudre en des termes nouveaux ce que Leibniz nomme la grande question de l'union de l'âme et du corps. Il affirme dans le même texte que Descartes là-dessus aurait quitté la partie. Ce sont les théories connues sous le nom de parallélisme, d'occasionnalisme et d'harmonie préétablie. Enfin, cette question de l'union connaît une résurgence contemporaine sous la forme du mind-body problem. Elle s'illustre exemplairement dans le domaine des neurosciences et prend acte des progrès considérables de l'étude du cerveau et de son fonctionnement. Mais là encore, elle se réfère à Descartes, souvent pour s'en démarquer, notamment au sens où le dualisme constituerait un obstacle épistémologique à la progression de la science nouvelle. On pense ici exemplairement à l'ouvrage de Damasio qui s'intitule « L'erreur de Descartes ». Lorsqu'on revient aux termes initiaux du débat, une mise au point s'impose. Les catégories de dualisme, d'interaction, de parallélisme, d'occasionnalisme ou d'harmonie préétablie n'ont pas toutes été forgées par les auteurs auxquels elles sont pourtant attribuées. Leibniz parle certes d'harmonie préétablie en 1696, mais comme d'un système. Et après avoir proposé dans le discours de métaphysique l'hypothèse de la concomitance, et avant d'introduire dans la correspondance avec Debos le thème de l'expression et du vinculum substantiale. Descartes, lui, un deuxième exemple, parle de distinction, d'union, éventuellement d'action réciproque de l'âme sur le corps, mais pas de dualisme ou d'interaction. Il ne faut donc pas sous-estimer, dans l'évaluation de ces différentes théories et de leur impact sur la philosophie contemporaine, les déformations éventuelles qu'ont pu leur faire subir toute une tradition de commentaires, et qui ne sont pas sans intérêt, parce qu'après tout, c'est bien ainsi que se constitue l'histoire des idées, par réception et par transformation successive. Prenons l'exemple le plus significatif, celui du dualisme. En faisant de Descartes le fondateur d'une conception des rapports de l'âme et du corps comprise comme séparation, donc en valorisant la distinction au détriment de l'union, les neuroscientifiques contemporains se créent un adversaire, utile à l'édification de leur propre théorie, mais très éloigné du Descartes des textes. L'historien des idées insiste ainsi à la constitution d'un nouvel objet tout à fait passionnant. Ce qui est intéressant, ce n'est pas de savoir si le Descartes utilisé aujourd'hui est ou non le Descartes des textes, mais ce qui, dans le contexte contemporain de réflexion sur l'union, qui est assez nettement orienté vers le monisme matérialiste, légitime la constitution de ce nouvel objet qu'on pourrait appeler le Descartes des neurosciences. L'analyse peut être poursuivie avec Spinoza, dont la philosophie, en un sens moniste et en tout cas fondatrice d'un certain matérialisme, connaît elle aussi un regain d'intérêt dans ce contexte contemporain. On citait tout à l'heure l'ouvrage de Damasio qui s'intitule « L'erreur de Descartes ». Il a écrit juste après un autre ouvrage s'intitulant « Spinoza avait raison ». Qu'en est-il donc dans les textes et comment est-ce qu'on peut résumer brièvement chacune des grandes conceptions classiques des rapports de l'âme et du corps? La particularité de Descartes est de procéder à ce que Jean-Marie Bessade nomme de façon particulièrement éclairante une conciliation des énoncés vrais mais divergents. L'âme de l'homme et de l'homme seul est en effet radicalement distincte de lui, ce que s'attache à mettre au jour le parcours des méditations métaphysiques, et comme mêlée au corps, au point de ne former plus avec lui qu'un seul ou même tout. Cette union s'illustre dans deux types d'expériences, celle de la force qu'a l'âme de mouvoir le corps et celle qu'a le corps d'agir sur l'âme en causant, nous dit Descartes, des sentiments et des passions. À côté de la métaphysique et de la métaphysique, il faut donc reconnaître l'existence d'un domaine singulier, celui de la troisième notion primitive. Spinoza montre bien que le dualisme cartésien rend le concept d'union à bien des égards confus. Que peut bien signifier, notamment, une quantité de mouvement qui serait issue d'un esprit ? Il faut donc faire de l'esprit et du corps les attributs d'une substance unique afin de rendre adéquatement compte de leurs modalités d'action respectives par la mise au jour des lois qui les régissent. La solution occasionnaliste, celle de Malebranche, qui procède de l'exigence de reporter toute forme d'efficience et de causalité en Dieu, doit renforcer à contrario le dualisme. Les modalités de l'âme et du corps y sont bien réciproques, mais sans que l'un ne puisse directement agir sur l'autre. Dieu seul est garant de l'efficacité. Il agit selon des lois générales et simples, et les causes occasionnelles viennent particulariser son exercice en le sollicitant, sans pour autant partager sa puissance de quelque manière que ce soit. L'hypothèse de l'harmonie préétablie, enfin, consiste en ce que la séquence des états de l'âme, qui va de perception en perception, est accordée au sein du monde avec la séquence des états du corps qui vont de mouvement en mouvement. Elle procède du souci de comprendre les manifestations de l'union comme des suites de la nature même des substances qu'elle harmonise, et non comme une action mystérieuse qui s'exercerait sur elles sans avoir égard à leur nature. C'est essentiellement cela que Leibniz reproche à Malebranche, et c'est le sens du recours chez lui à l'argument du miracle permanent. On le voit, chacun des grands systèmes de l'âge classique a prétendu résoudre la question de l'union de l'âme et du corps en amoindrissant, voire en gommant, la divergence des deux énoncés cartésiens fondateurs. Cette procédure de résorption de la divergence aboutira au fond assez logiquement à se retourner contre les intentions premières de leurs auteurs. Reprenons pour finir l'exemple de Malebranche. Pour combattre la troisième notion primitive de Descartes et détruire l'illusion d'une efficacité réelle des créatures, en particulier de l'âme humaine, il est amené à insister sur la puissance d'offuscation de l'âme par le corps depuis le péché, en utilisant les acquis du nouveau mécanisme et en les étendant à des domaines inédits, celui de l'action des corps à distance, dans l'espace, pour expliquer la communication des passions, mais aussi dans le temps, pour expliquer la propagation du péché originel, par des voies corporelles. Ce faisant, et à son corps défendant, Malebranche donne du grain à moudre à toute une postérité matérialiste qui congédiera Dieu et permettra aux causes occasionnelles de conquérir leur autonomie. Bref, à la matière de venir rendre raison des modifications traditionnellement imputées à la pensée. Par-delà les débats idéologiques, la réflexion sur l'union de l'âme et du corps renvoie ainsi chacun d'entre nous, ultimement, à ce que le courant cartésien nomme le témoignage ou l'expérience intérieure que nous en faisons quotidiennement.